je vous propose une émission qui s'appelle « Pour la dignité » et qui est consacrée aux droits humains et aux actions, aux enquêtes, aux recherches d'Amnesty International en France et par le monde.
Et bonjour Régis Coulanges, responsable formation Amnesty International, toujours.
Toujours. Bonjour, bonjour Odile et bonjour à tous. Voilà, alors cette émission est essentiellement consacrée au rapport mondial sur la situation des droits humains dans le monde. Ce rapport vient de sortir et vous pouvez tous le consulter sur le site amnesty.fr. Nos constats sont accablants. Le monde se trouve à un tournant historique. En effet, l'intensification de la répression, des pratiques autoritaires, des conflits et le piétinement du droit international par les pays les plus puissants menacent l'idéal des droits humains pour toutes et tous. Alors que le monde se trouve à un tournant historique, notre dernier rapport annuel pointe également des raisons d'espérer et des appels à l'action et à la résistance. L'édition 2025 de la situation des droits humains dans le monde identifie et recense les principales évolutions des droits fondamentaux dans le monde au cours de l'année passée. Notre rapport annuel de près de 500 pages, fruit d'enquêtes et d'analyses menées dans 150 pays, met en évidence les grandes tendances suivantes. L'escalade catastrophique des conflits a été permise par l'inaction de nombreux États occidentaux, voire l'action de certains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les entraves ont affaibli le multilatéralisme et la justice internationale. De nombreux États ont mis en place des mesures répressives destinées à réduire au silence les défenseurs des droits humains ou leurs opposants afin d'asseoir leur pouvoir. L'échec mondial et l'inaction générale dans la lutte contre les inégalités, l'effondrement climatique et les transformations technologiques mettent en péril les générations futures. Les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump ont accentué des régressions mondiales et des tendances profondes observées en 2024. Les pratiques autoritaires et l'anéantissement du droit international ne sont toutefois pas une fatalité. Les populations résistent aux atteintes aux droits humains, les gouvernements peuvent garantir la justice internationale et doivent continuer à le faire. On va écouter maintenant une chanson d'actualité, Les Goguettes, qui chantent « Il est libre, Musk ».
C'est juste un petit gars qui grandit à Pretoria, où on prête qu'aux riches, mais heureusement y'a papa, qui travaille dans les mines sans avoir besoin d'y descendre. Il a la mauvaise mine, il sort pas trop de sa chambre. Maintenant il bosse dans la tech, mais c'est un grand sensible. Comme ses voitures autonomes, il est en roue libre. Il est libre, Musk. Il est libre, Musk. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Quand il va en Allemagne, il rend visite aux amis, des gens qui comme lui aiment faire des saluts romains. Il anime les meetings, les mariages, les bar mitzvahs. Même s'il souffre d'un peu de tendinite au bras droit, il est libre, Musk. Il est libre, Musk. Y'en a même qui disent c'était pour rigoler. Comme tous les super riches, il crée beaucoup d'emplois. Bon, lui, c'est surtout un licencié qui s'emploie. Avec son ami Donald, il pirate le système. Faudrait que ça ruisselle toujours sur lui-même. Il est libre, Musk. Il est libre, Musk. Y'en a même qui disent qu'il n'est pas désolé. Il a racheté Twitter avec un max de pognon, car il défend beaucoup la liberté d'expression. Il défend aussi ta liberté de l'écouter. C'est lui qui dit sur quel algorithme danser. Il est libre, Musk. Il est libre, Musk. Y'en a même qui disent pour qui il fera voter. Il met de la kétamine le matin dans ses cornflakes. Sinon il déprime, faut qu'il stimule son cortex. Moi je lui prescrirais plutôt une petite tisane. Mais je suis chansonnier, je suis pas médecin à Sainte-Anne. Il est libre, masque. Il est libre, masque. Il y en a même qui disent qu'il est vraiment cinglé. Fabrique des fusées car il veut voyager loin. Déjà ses enfants ont des prénoms martiens. Pourvu qu'il embarque avec lui Trump et Poutine, avant qu'il ne transforme la terre en champ de ruines. Il est libre, masque.
Voilà, c'est ce personnage inquiétant parmi d'autres. On va maintenant écouter Agnès Callamard, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International au niveau mondial. C'est une Française et elle va vous présenter le rapport mondial qu'on vient de sortir et qui s'intitule « Le monde au bord de l'effondrement ». On l'écoute.
Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Nous la posséderons.
Le monde est en grand, grand danger. Toutes les institutions qui pourraient protéger sont en train d'être détruites.
Donald Trump has denounced the International Criminal Court, accusing it of illegitimate and baseless actions against the US and Israel.
À Gaza, les États-Unis ont usé de leur droit de veto pour empêcher tout cessez-le-feu. En l'espace de quelques jours, des milliers d'organisations de la société civile ont perdu leur financement. La plupart d'entre elles devront disparaître. Tout ceci a été supprimé par Donald Trump. Il est plus que temps de réagir parce que nous sommes en train de nous enfoncer dans cet abysse. L'année 2024 va rester dans les mémoires parce que, d'un certain côté, elle annonce les 100 premiers jours de Donald Trump. Donald Trump a mis en place des lois, des pratiques cruel. Ce que fait Donald Trump, c'est d'amplifier et d'accélérer les régressions que nous avions déjà trouvées en 2024. Nous assistons à l'annihilation du droit international avec le génocide à Gaza qui a lieu tous les jours devant les yeux de tout le monde sur les postes de télé ou sur Internet et aucune action n'est prise pour pallier aux souffrances du peuple palestinien. Nous avons le président de la Russie qui continue dans ses pratiques agressives contre l'Ukraine. Et d'ailleurs, le nombre de victimes en 2024 est plus important que ce qu'il avait été en 2023. Nous avons la multiplication des crimes sexuels au Soudan qui tombe complètement dans l'indifférence. En 2024, nous avons continué d'assister aux attaques contre les droits des femmes en Afghanistan, où les femmes deviennent l'ombre d'elles-mêmes. On en fait des sous-personnes. Cette croisade patriarcale, on la retrouve dans une certaine mesure dans les 100 premiers jours de Donald Trump.
Donald Trump a aussi ordonné l'arrêt de toute subvention publique américaine en faveur de l'avortement à l'étranger et rejoint une déclaration internationale contre le droit à l'IVG.
Il s'assoit sur le fait que les droits sexuels et reproductifs ne sont plus protégés aux États-Unis. 2024, c'est l'échec des organisations multilatérales, en commençant par les Nations Unies, le Conseil de sécurité qui a été incapable de jouer son rôle, que ce soit en Ukraine ou à Gaza. À Gaza, les États-Unis ont usé de leur droit de veto pour empêcher tout cessez-le-feu. En ce qui concerne l'Ukraine, c'est la Russie qui utilise son droit de veto. Toutes les institutions qui avaient été mises en œuvre pour préserver la paix et la sécurité, ces institutions sont incapables de jouer leur rôle en raison de l'abus de pouvoir des grandes puissances, en commençant par les États-Unis, la Russie et la Chine. La Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice essaie de jouer leur rôle et il faut les en remercier.
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes.
Il faut remercier l'Afrique du Sud en particulier qui est allée auprès de la Cour internationale de justice. Donc qui essaye de démontrer qu'il y a encore un système international sur lequel nous pouvons et nous devons compter.
Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza.
Mais quand la Cour pénale internationale a émis ses mandats d'arrêt contre Netanyahou, il y a eu un lever de bouclier de la part des États occidentaux, ces mêmes États qui avaient participé à la formation de la Cour pénale internationale. Un vrai scandale.
As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority.
Les premières mesures prises par Donald Trump ont été de sanctionner le procureur de la Cour pénale internationale. Donc toutes les institutions qui pourraient protéger sont en train d'être détruites, soit très directement, très violemment, très rapidement, soit à petit feu.
The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way.
Nous ajoutons à cela l'aspect financier de ce que fait Donald Trump, donc le fait qu'il n'y ait plus d'assistance au développement, d'assistance humanitaire, d'assistance auprès des organisations de la société civile. Tout ceci a été supprimé par Donald Trump. Donc en l'espace de quelques jours, des milliers d'organisations de la société civile ont perdu leur financement. Certaines, la plupart d'entre elles, devront disparaître.
Ils sont descendus par dizaines de milliers samedi dans les rues de toutes les grandes villes du pays.
La résistance, ça commence déjà par s'indigner. Donc indignez-vous. Ne restez pas silencieux devant les exactions, devant les violences verbales, devant les violences physiques, devant l'indifférence, devant la complicité. Indignez-vous et faites-le avec force, faites-le avec de la voix. Ensuite, rejoignez d'autres personnes, ne travaillez pas seul. La résistance, elle va devoir se faire collectivement. Les organisations de la société civile sont attaquées de toutes parts. Ces attaques peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être politiques, elles peuvent être juridiques, elles peuvent être financières. Amnesty International a la chance d'avoir une assise financière qui n'est pas dépendante des États. Donc ça lui permet de continuer son travail lorsque d'autres font face à des coupes budgétaires qui sont en lien avec les pratiques des gouvernements. Nous sommes à l'heure actuelle 10 millions, peut-être plus, de supporters d'Amnesty à travers le monde. Ça veut dire qu'il y a dans chaque communauté, dans chaque région de France, par exemple, des membres d'Amnesty qui vont se retrouver ensemble, qui vont organiser des tables rondes, qui vont faire de la désobéissance civile, qui vont aller manifester. Ce sont ces membres dans chaque village. Le fait que nous ne laissons pas d'espace vide pour le respect des droits humains, c'est ça qui fait la force d'Amnesty. Venez à Amnesty ou allez travailler avec d'autres organisations. Ne restez pas seuls, il y en a d'autres que nous qui peuvent faire quelque chose, mais nous sommes là et nous allons résister. Je ne pense pas que mes mots soient trop faibles lorsque je dis que l'avenir du monde dépend de notre résistance.
Zao de Sagazin.
en vers ou bien en prose. Regardez-moi de travers, je prendrai la pose. Moi je les aime mes travers, donnez les vôtres, j'en ferai quelque chose.
Voilà, avant de parler des droits humains en France, je vais vous revenir sur quelques points très importants du rapport, point qu'a abordé Agnès Callamard. Voilà, donc depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le Hamas a commis des crimes terribles contre des citoyens d'Israël et d'autres pays pris en otage, et pris en otage de plus de 250 personnes, le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct. Les États ont regardé, comme s'ils étaient impuissants, Israël tuait des milliers de Palestiniennes et Palestiniens, massacrant des familles entières sur plusieurs générations et détruisant des habitations, des moyens de subsistance, des hôpitaux et des établissements scolaires. L'année 2024 restera dans les mémoires comme celle d'une occupation militaire israélienne plus éhontée et meurtrière que jamais, du soutien apporté à Israël par les États-Unis, l'Allemagne et quelques autres pays européens, du veto opposé à plusieurs reprises par le gouvernement du président Joe Biden aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu et de la poursuite des fournitures d'armes à Israël. En 2024, Israël et ses puissants alliés, au premier rang desquels les États-Unis, ont prétendu que le droit international ne s'appliquait pas à eux, ou ont agi comme si tel était le cas, choisissant d'ignorer les injonctions de la Cour internationale de justice et les décisions de la Cour pénale internationale. En 2024, le président russe Vladimir Poutine a poursuivi sa politique d'attaque systématique des infrastructures civiles en Ukraine, faisant encore plus de victimes civiles qu'en 2023. La Russie a détruit ou occupé la majorité des centrales thermiques ukrainiennes, entraînant de fréquentes coupures de courant pour des milliers de personnes. Des dizaines de prisonnières et prisonniers de guerre ukrainiens ont été jugés en toute illégalité, en Russie et dans les zones d'Ukraine occupées par celle-ci. En 2024, la guerre et la famine ont fait des milliers de morts au Soudan, théâtre de la plus grande crise au monde en matière de déplacements forcés, dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Celle-ci ne s'est d'ailleurs guère plus souciée de l'escalade de la violence qu'ont connue la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Niger ou encore le Myanmar. les opportunités de vente d'armes offertes par ces différentes crises n'ont en revanche pas manqué de retenir l'attention et les appels à appliquer des embargos sur les armes sont, eux, restés lettres mortes. L'année 2024 a montré à quel point les États étaient prêts à mettre leur propagande au service des conflits armés. Une propagande amplifiée par les algorithmes des réseaux sociaux et la contribution de voix puissantes, sans se préoccuper de l'exactitude ou des conséquences délétères des informations diffusées. Bref, l'année 2024 nous a tous et toutes déshumanisés. On écoute maintenant Pomme dans sa chanson « Soleil, soleil ».
Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Oh, reviens, soleil, soleil. Ne regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Oh, reviens, soleil, soleil. On ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir.
Belle chanson de Pomme, hein. Et espérons que nous manifestions pour que le soleil revienne sur les droits humains. On va maintenant parler de la situation des droits humains en France, des menaces sur l'état de droit. Donc dans le rapport annuel, la situation des pays est étudiée, pays par pays. Donc on a observé 150 pays. Et donc, bien sûr, la France. Alors plus particulièrement, je vais vous parler de la situation des droits humains en France. L'amplification de discours politiques sécuritaires et xénophobes, mesures de vidéosurveillance intrusives, restriction des libertés d'expression et de manifestation, l'édition 2025 de notre rapport annuel sur la situation des droits humains confirme une dégradation continue des droits fondamentaux en France. Malgré l'avancée importante qu'a représentée l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, l'année 2024 a été marquée par des reculs de plus en plus assumés concernant les droits humains, particulièrement inquiétants pour l'état de droit. La France pourrait cependant s'appuyer sur ses engagements internationaux en matière des droits humains pour mieux résister à l'offensive anti-droit. Diversité, inclusion, défis sportifs. Les promesses des Jeux olympiques et paralympiques ont eu un goût amer pour beaucoup. Le recours à la vidéosurveillance algorithmique expérimentée dans le cadre de l'organisation des JO devait être une mesure provisoire. Pourtant, le gouvernement a cherché à la prolonger jusqu'en mars 2027 malgré les risques pour les droits humains et en dépit de l'absence de résultats probants. Cette mesure liberticide, expérimentale, pourrait devenir la norme. La reconnaissance faciale dans l'espace public, elle, pourrait être la prochaine étape, faisant basculer la France dans une société de surveillance généralisée. La France a été le seul pays à interdire aux femmes portant le foulard de faire partie de la délégation olympique. En marge de l'épreuve du marathon, des personnes issues de collectifs mobilisés contre l'interdiction discriminatoire du port du voile dans le sport ont été soumises à des contrôles d'identité et à des arrestations arbitraires. Aujourd'hui, l'interdiction discriminatoire du port du foulard dans le sport pourrait être généralisée au travers d'une proposition de loi actuellement débattue, privant de très nombreuses femmes et filles de l'accès à l'activité sportive de leur choix. En France, malgré la prolifération de plus en plus décomplexée de discours et actes racistes, anti-tziganes, antisémites, islamophobes, négrophobes, anti-asiatiques, les autorités continuent de nier l'existence du racisme systémique. Or, les Nations Unies ont reconnu que le colonialisme et l'esclavage sont les principales sources des formes contemporaines du racisme, de la discrimination raciale et de la xénophobie. Malgré cela, les autorités françaises refusent de s'attaquer à ces causes profondes et empêchent l'autorisation de collecte de données sur le sujet. Conséquence, en 2024, le gouvernement n'a fait aucun progrès sur la question, en particulier pour mettre fin au contrôle d'identité dit « contrôle au faciès ». La France doit mettre fin à la discrimination raciale ancrée dans les lois et les pratiques, aborder la question des réparations pour l'esclavage et le colonialisme, et combattre l'héritage de ces injustices historiques qui se manifestent dans des formes contemporaines de racisme et d'inégalité. On va écouter maintenant Clémence Savelli. Ciao.
Tu erres le long des quais, le long des villes, de quart en quart. Tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas. Mes amis, ciao, ciao. Mes projets, ciao, ciao. Mon pays, ciao, ciao. Ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao. Mon frère, ciao, ciao. Mes amours, ciao, ciao. Vers mon histoire. Toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, et tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas. Mes amis, ciao, ciao. Mes projets, ciao, ciao. Mon pays, ciao, ciao. Ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao. Oh, mon frère, ciao, ciao. Mes amours, ciao, ciao. Vers mon histoire. Ciao, ciao, mes projets, ciao, ciao. ciao, ciao, ce soir je pars. Les jours crient ciao, ciao, oh mon frère, ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire.
Voilà, très belle chanson sur ces gens qui sont contraints de quitter leur pays. On va justement parler maintenant des exilés qui sont les boucs émissaires bien commodes de beaucoup de gouvernements. Alors que l'année 2024 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les personnes qui traversaient la Manche sur des embarcations de fortune, l'obsession migratoire délétère a continué de prospérer. Bien que le Conseil constitutionnel ait largement censuré les mesures de la loi Asile et Immigration, ce texte restera celui qui aura historiquement dégradé les droits des personnes exilées en France. Les discours xénophobes et de dénigrement qui ont imprégné les débats autour de cette question ont continué d'être encouragés jusqu'au plus haut niveau et relayés par les réseaux sociaux et certains médias. La France doit enfin cesser d'instrumentaliser la peur et adopter des politiques migratoires plus humaines et respectueuses des droits des personnes exilées, quelle que soit leur situation. Je donnerai pour exemple un jeune dont on s'est occupé, qui maintenant fait une formation d'aide-soignant. Il a été amené à travailler à domicile aussi. Et en fait, quand il est en congé, les personnes dont il s'est occupé à domicile souvent l'appellent pour demander un service et lui, toujours souriant, toujours prêt à rendre service, se déplace et va faire une course pour telle personne ou telle personne. Voilà. Il vient du Mali et c'est loin, loin d'être un délinquant. Au contraire, il apporte énormément à la société. Voilà, c'était un exemple réel de ces jeunes. En matière de maintien de l'ordre, la doctrine de la France est restée inchangée. Un recours disproportionné aux armes à létalité réduite. Le gouvernement a même lancé un appel d'offres d'un montant de 27 millions d'euros pour la fourniture de grenades de désencerclement, un matériel de guerre dangereux qui a déjà provoqué des blessures graves lors de manifestations. Pourtant, à plusieurs reprises, les experts des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations quant aux techniques de maintien de l'ordre jugées excessives et au caractère disproportionné de la répression à l'égard de certains groupes. En août, des inquiétudes ont notamment été soulevées à la suite d'allégations d'usage excessif de la force, d'arrestations et de placements en détention arbitraire et de disparitions forcées lors des troubles survenus à Kanaky, Nouvelle-Calédonie, au printemps 2024. La France doit cesser de recourir illégalement à des armes meurtrières ou à létalité réduite contre les manifestants. Elle doit abroger les lois et mettre fin aux pratiques qui violent les droits à la liberté d'expression et d'association. La France et le conflit à Gaza. Incohérence et ambiguïté. Voilà comment s'est caractérisé le positionnement de la France sur le conflit en cours à Gaza. D'un côté, les autorités françaises ont appelé à mettre un terme aux crimes internationaux en cours ainsi qu'à lutter contre l'impunité. De l'autre, elles ont sapé l'autorité de la Cour pénale internationale en invoquant le principe d'immunité à l'annonce de l'émission de mandat d'arrêt pour crimes de guerre et contre l'humanité à l'encontre de Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, son ministre de la Défense, jusqu'à l'automne. En parallèle, la France n'a pas cessé complètement ses exportations de matériel de guerre vers Israël en dépit de nombreux appels de l'ONU et des annonces du président Emmanuel Macron. La France doit exprimer son soutien public et sans faille aux travaux de la CPI, la protéger des sanctions américaines et satisfaire à ses obligations en exécutant les mandats d'arrêt de la Cour. Elle doit également cesser tout transfert d'armes qui contribuerait à des violations graves du droit international humanitaire et des droits humains. On écoute maintenant Suzanne dans la chanson « Je t'accuse ».
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie. Isa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis à moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. N'existe pas, pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma, mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Pour celle qui avait prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celle qui prenne la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
Voilà, on va donc parler du droit des femmes, hein, introduite par cette chanson. La France est devenue le premier pays du monde à inscrire dans sa constitution la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Une avancée importante. Concernant les violences sexuelles, les femmes migrantes, nous avons documenté en 2024 que les travailleuses du sexe et les femmes transgenres se heurtent à des obstacles systémiques lorsqu'elles tentent de déposer une plainte dans les commissariats. La France doit mettre un terme aux discriminations et aux violences fondées sur le genre, en levant les obstacles législatifs et en abrogeant les lois qui entravent l'accès à la justice. Elle doit garantir l'accès à des informations et des services complets en matière de santé sexuelle et reproductive sur l'ensemble du territoire. Il est encore temps de résister. Alors que les impacts des décisions du président américain Donald Trump se font sentir partout dans le monde, le risque est de voir volontairement défait ce qui avait été conçu pour protéger les droits et libertés des personnes. Parce que nous avons les outils pour identifier, étudier et comprendre les tendances à l'œuvre aujourd'hui contre les droits et les libertés fondamentaux, nous devons nous battre face aux remises en cause des droits acquis, face aux attaques contre l'état de droit. Il n'y a qu'une seule voie possible, celle de la résistance. Il est encore temps d'agir pour que les droits humains continuent de protéger. Il est encore temps d'inventer de nouvelles formes de résistance. Il est encore temps de mieux partager les clés qui permettent de se battre plus nombreux et nombreuses contre ces nouvelles menaces. En France comme ailleurs, mobilisons-nous pour défendre l'essentiel, les droits humains. On va maintenant écouter une chanson de Jacques Lair, qui est un Dinois et qui avait créé une chanson qui s'appelle Amnesty, Amnesty, et qui nous appelle à participer à défendre ensemble les droits humains.
Seul délit j'ose penser, trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme
Amnestie, amnestie, allume ta bougie. Amnestie, amnestie, écris-moi je t'en prie. Libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faible essaie d'être un enfant, né d'une ville à feu à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme. Amnestie, amnestie, allume ta bougie. Amnestie, amnestie, écris-moi je t'en prie. Je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre, jeune et joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens sali, bafoué, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme. Amnestie, amnestie, allume ta bougie. Amnestie, amnestie, écris-moi je t'en prie. Efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer et terminer 6 pieds sous terre. Il crache sur mon âme. Amnestie, amnestie, allume ta bougie. Amnestie, amnestie, écris-moi je t'en prie. Les dieux volent en paix et en ombre sous les ailes de la colombe. Seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme. Amnestie, amnestie, allume ta bougie. Amnestie, amnestie, écris-moi je t'en prie. Tes coups de plume sur le monde, ouvre la cage de ma colombe. Amnestie, amnestie, allume tes bougies. Amnestie, amnestie, écris-nous je t'en prie. Amnestie, amnestie, j'allume ma bougie. Amnestie, amnestie, pour libérer, j'écris.
Voilà.
Une belle chanson qu'il a écrite là.
Oui, oui, là, il nous a fait un beau cadeau et puis il incite à venir nous rejoindre. Alors à ce propos, vous savez que sur Digne, il existe un groupe d'amnestie et vous pouvez très bien nous rejoindre, assister à une réunion pour voir un peu comment ça se passe. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 28 mai à partir de 17h au 83 avenue de Verdun. C'est chez Madame Blanc, c'est la villa qui se trouve derrière le parking de l'étal des Trois-Vallées. Si vous voulez voir comment ça se passe, n'hésitez pas à venir. Nous avons fait dernièrement une foire aux livres qui a encore bien marché. Comme tout le temps, on a beaucoup de gens qui viennent régulièrement, beaucoup de gens qui nous donnent des livres, alors on les remercie chaleureusement. Des livres en très bon état et nous les revendons à prix modique pour justement financer Amnesty International. La secrétaire générale vous a dit que nous ne dépendions pas de subventions, contrairement à beaucoup d'associations qui sont embêtées notamment par les dernières mesures de Donald Trump qui risquent de porter un coup terrible aux gens les plus pauvres du monde. Amnesty International ne bénéficie que des dons des membres et sympathisants, et puis aussi de la collecte que font les groupes d'Amnesty. Et c'est ainsi que à Digne, on avait choisi d'organiser des foires aux livres, et l'argent sert à financer les actions de recherche d'action de notre mouvement. Voilà, alors prochainement, nous envisageons de faire un ciné-débat en partenariat avec France-Palestine et le commerce équitable. Projection de ciné-débat autour du film « Un médecin pour la paix ». Alors, ce film raconte l'histoire d'Izzeldin Abouelesh, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien. Il voit sa maison bombardée en 2019, tuant ses trois filles et une nièce. Malgré cette tragédie, il trouve la force de parler d'espoir et de réconciliation. Exilé depuis au Canada, il milite sans relâche pour la paix entre Israël et la Palestine, ce qui lui vaudra d'être nominé 5 fois pour le prix Nobel de la paix. Du camp de réfugiés de Jabalia à Gaza, où il est né et a grandi, à l'Université de Toronto, jusqu'à la Cour suprême d'Israël, un médecin pour la paix retrace le parcours du docteur Izzeldin Abouelesh, premier médecin palestinien à travailler en tant qu'obstétricien dans un hôpital israélien. Il a donné naissance à des bébés de toutes origines. Il est profondément convaincu que la médecine et la santé sont les grands facteurs d'égalisation, de stabilisation, de socialisation et d'harmonisation de l'être humain. Son éthique de pardon et de réconciliation est mise à l'épreuve lorsqu'un tank israélien bombarde sa maison, tuant ses trois filles et une nièce. Contre toute attente, il transforme sa tragédie en une campagne mondiale pour éradiquer la haine par la tolérance, délivrant son message en anglais, en arabe et en hébreu. Il devient 5 fois candidat au prix Nobel de la paix et se lance dans une bataille non violente pour la reconnaissance de la nation palestinienne, convaincu que pour honorer ses filles, il doit demander des comptes au gouvernement israélien pour l'attaque gratuite qui a décimé sa famille. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre et la guerre contre Gaza, 22 membres de sa famille ont été tués, dont des nièces, des neveux et des cousins. Ce film se fait l'écho des préoccupations d'Amnesty International exprimées depuis des décennies concernant le conflit Israël, territoire palestinien occupé. Le film permet d'apporter des clés de compréhension sur la situation complexe dans une démarche humanisée. Il met en lumière les violations graves du droit international humanitaire commises par Israël, par le Hamas et par les autres groupes armés palestiniens sur lesquels notre organisation enquête sans relâche. Il souligne l'absence de justice, l'impunité face aux crimes commis et illustre dramatiquement les conditions de vie sous l'occupation israélienne illégale, les discriminations et l'apartheid faites aux Palestiniens et Palestiniennes tout en humanisant leurs souffrances. Il explique à travers le destin singulier d'une personne profondément pacifique ce qu'est une réfugiée palestinienne ou un réfugié et met l'accent sur la négation du droit au retour des Palestiniens et Palestiniennes par l'État d'Israël en montrant les drames et les désillusions vécues par le docteur Abouelesh. Il donne à entendre le point de vue d'un Palestinien, ce qui en général est peu connu et peu accepté. Enfin, le film s'inscrit résolument dans le conflit en cours, en faisant le lien avec l'actualité. L'apartheid que met en lumière le film fait partie des causes profondes du conflit armé. Voilà, donc on n'a pas encore la date de cette projection, mais je vous invite à venir très nombreux assister à cette projection quand on aura défini le lieu et la date. Ce sera donc à Digne, en partenariat avec nos 3 associations. Pour terminer cette émission, je vais vous lire un poème de Negin Fallahi. Alors Negin Fallahi, c'est la femme d'Alizar Ganatoui qui est venue faire une exposition à Digne et présenter son dernier film. C'est un Iranien, un réfugié politique, qui, pour échapper à la prison, a dû donner au gouvernement sa maison et puis s'enfuir à Marseille. Et 2 ans après, il a fait venir Negin Falahi, qui est sa femme, qui est une architecte et aussi une poète. Donc il y a eu aussi une soirée à la médiathèque sur la poésie persanophone à partir d'un livre « Souviens-toi de l'envol » qui est un recueil de poésie perse, mais féminine. Alors on connaît très bien, ou plutôt on connaît mieux la poésie perse masculine, mais là on met en lumière la poésie de ces femmes qui, en Iran, en Afghanistan, écrivent leur révolte. Donc on écoute, je vous lis, le poème de Negin Falahi. Une barricade dans la tête. Les yeux de l'enfant, volés par le dictateur. La mère de l'enfant, volée. Son père, volé. Sa terre, volée. Le monde sur ma rétine, vide, néant, absurde. Sur la page, couleur. Dans mes yeux, noir et blanc. Un hiver s'écroule sur un enfant. Sur la page, couleur. Dans mes yeux, noir et blanc. Mon obsession pour un enfant sans espoir, ignorant même le mot désir. Je quitte les abîmes de ma peine pour des terres plus sûres. Ici, pas de barricade. Je bâtis une forteresse autour de mon corps. Bercé du chant des montagnes, un enfant s'endort. Je crie, réveille-toi. Donne-moi la lumière de tes yeux, la terre de tes mains, le printemps de ta marche pour changer le monde. Voilà. Je peux, s'il reste un petit peu de temps, je peux vous en lire une seconde. La gazelle agile du gazal. Présente ou absente, je serai pas loin de ma patrie. Comptez sur moi. Tant que durera le combat, je serai dans l'arène. Comptez sur moi. Jamais ne me fait défaut le poème. L'air de ma patrie inspire mon chant. Je suis la gazelle du gazal. Gazelle agile, non proie facile, comptez sur moi. La passion, la révolte et les cris, voilà ma vie. Que me font les pierres qu'on me lance? Je suis torrent indomptable, comptez sur moi. Pourquoi devrais-je, nouvelle gorde affaride, cacher mes cheveux? N'est pas né le roué qui de moi fera une femme emmurée, comptez sur moi. Je suis la foudre, comment me taire après l'éclair? Je suis le tonnerre rugissant, je n'abandonne jamais, comptez sur moi. On a voulu me crever les yeux et me tuer, mais la flèche a raté sa cible. Je ne cacherai pas, nouvelle Esfandiar, ma tête derrière ma selle, comptez sur moi. J'ai dit révolte et hurlement, et advienne que pourra. Je ne serai pas éternellement avec vous. La voix seule demeure, comptez sur moi. Je suis vieille et malade, ô combien, mais j'agrippe encore la crinière de mon destrier. Je ne suis plus en selle, mais je désire toujours chevaucher, comptez sur moi. Voilà, très beau poème qui montre la résistance farouche des femmes iraniennes et d'Afghanistan. Voilà, cette émission est terminée. Je vous remercie. N'hésitez pas à rejoindre Amnesty ou, comme a dit la secrétaire générale, une autre association pour combattre ces personnes qui veulent mettre à mal l'état de droit et les droits humains qui nous protègent, qui devraient nous protéger tous. Merci.
Merci, Régis.